On est dans le cours L'âme sœur, fréquentation célibat. On commence la deuxième partie du cours sur les fréquentations. Et donc, on est à la leçon 5, introduction aux fréquentations. Je m'appelle Yannick Étier. Ça me fait plaisir de donner ce cours-là. Donc, vous pouvez suivre notre cours entièrement sur le site web aussi. Introduction aux fréquentations. Deux raisons pour lesquelles vous pourriez être intéressé d'être ici. C'est parce que vous pensez que vous allez peut-être être appelé un jour à fréquenter. Et vous voudriez bien le faire, vous voulez peut-être revenir sur vos propres fréquentations, chrétiennes ou non. Hein? On a tous des arrière-plans différents. Il y en a qui étaient en couple, comme on dit, avant de connaître le Seigneur, puis qui après ça ont mis un peu d'ordre dans leur relation. Et puis il y en a d'autres qui se sont mariés dans la foi, il y en a qui ont été enseignés avant le mariage sur les fréquentations, puis ils ont fait des belles fréquentations suivant des principes fondé dans les Écritures, d'autres, c'était un petit peu n'importe quoi. Ça s'est fait comme s'ils n'étaient pas chrétiens, avec des fois le mot Jésus qui apparaît dans leur discussion. Puis après, c'est se marier. Puis on essaie de faire du ménage dans ce qui a déjà été comme mal construit. On l'a vécu beaucoup à l'Église ici. Les gens venaient nous voir pour le cours de préparation au mariage, comme 9 mois, 10 mois avant de se marier. Puis on commençait à s'asseoir ensemble, puis fallait déjà comme sortir le boule, jeter à terre ce qu'ils ont construit pendant un an avant comme genre de fréquentation, confesser les péchés, chercher un peu de sainteté, un peu de pureté. Puis après ça, on se prépare pour le mariage. Fait que la relation est déjà mal construite, puis c'est même pas scellé dans le mariage. Alors, une des choses qu'on fait ici à l'Église, puis je vais avoir l'occasion d'en parler plus au fur et à mesure que le cours va avancer, mais une des choses qu'on fait ici à l'Église, c'est que généralement, on est capable de l'offrir à toutes les couples en fréquentation. On a des couples d'expérience qui accompagnent les couples qui se fréquentent. Et moi, j'encourage fortement les couples de tous âges. Donc, si jamais, pour une raison quelconque, Dieu m'amenait à tomber veuf et à refréquenter à 85 ans, ce serait avec joie que j'irais me faire suivre, conseiller dans mes fréquentations par un couple extérieur. Parce que la sagesse qui est là, mais aussi parce que ça sort un peu d'une relation, ça sort de la promiscuité. Vous savez c'est quoi ça veut dire la promiscuité? Ça sonne comme obscurité. C'est le genre de choses qui peut se passer lorsqu'on se tient à l'écart isolé, d'accord? Et donc ça sort, ça casse ça, ça amène un petit peu de reflet, un petit peu de lumière, un petit peu d'échange, tout ça dans la fréquentation. Une autre raison pour laquelle vous pourriez avoir à cœur d'être ici dans le cours, c'est peut-être parce que vous avez des enfants qui vont fréquenter un jour et vous aimeriez bien les conseiller, bien les accompagner. Peut-être que vous avez entendu des choses sur les fréquentations chrétiennes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, puis vous dites « je vais aller voir c'est quoi cette affaire-là ». Ça nous arrive des fois d'avoir des débats avec des parents qui sont loin d'avoir une vision chrétienne des fréquentations puis qui nous trouvent un petit peu trop conservateurs. Et donc, ça c'est pas évident, hein, quand tu dois enseigner les parents qui sont déjà en train de donner un mauvais enseignement à leurs propres enfants. Donc, je pense que ça, c'est sage, mais aussi peut-être simplement parce que vous voulez conseiller des gens, discuter avec des personnes, puis donner des conseils. Puis, comme je l'ai déjà mentionné, je pense qu'on est appelé à vivre de la transparence les uns avec les autres. Fait que moi, personnellement, je serais en train de fréquenter, puis j'aurais une personne célibataire qui viendrait me dire « Hey, j'ai un petit conseil à te donner. » Personnellement, ça ne m'offenserait pas du tout. Ça me ferait plaisir d'écouter ça. C'est sûr que si la personne présume qu'elle connaît tout et qu'elle ne l'a jamais vécu, peut-être qu'il y a un manque d'humilité, mais je pense que tout le monde a le droit de conseiller lorsqu'on le fait avec écoute. Comme on le disait l'autre fois, là, il y avait une question sur la compassion. Lorsqu'on le fait en écoutant l'autre, lorsqu'on le fait en comprenant ce que l'autre vit, en comprenant en quoi on se ressemble, comme Caro avait souligné, je pense qu'on a toujours le droit de se conseiller les uns les autres. Les fréquentations et la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un verset dans la Bible qui nous parle des fréquentations? Ça nous aiderait comme point de départ. Est-ce qu'on a un savant biblique parmi nous? Tu n'en avais pas? Dans Corinthiens? OK. Ouais. OK. OK. OK, oui, qui peut être comme vers le mariage, admettons, oui. OK, donc il n'y en a pas. On va s'entendre là-dessus, il n'y a pas de verset dans la Bible qui parle de fréquentation, ça n'existait pas vraiment le concept. Quel est le livre dans la Bible qui, selon vous, est le plus près de ça? Parce qu'il y a quand même des allusions. Il y a un livre dans la Bible qui parle de quelque chose qui ressemble à des fréquentations. Lequel? Pardon? Le Cantique des Cantiques. Mais oui, on pense au Cantique des Cantiques pour les scènes olé-olé. Mais il y a de l'amour avant le mariage dans ce livre-là. Il y a vraiment une relation de courtisans où ils sont en train d'exprimer leur intérêt l'un pour l'autre. Fait que oui, définitivement. C'est là qu'on trouve le plus d'informations claires sur le concept lui-même des fréquentations. Mais donc, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas vraiment ça dans les Écritures. Je ne suis pas en train de dire que puisqu'il ne l'a pas, on ne doit pas le faire. J'ai un iPad, puis il n'y en avait pas dans le temps de la Bible. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait, même sur le plan éthique. Il y a des domaines, des questions qui n'étaient pas posées à l'époque. Est-ce qu'on peut faire de la recherche à partir de cellules souches? Ça ne parle pas directement de ça dans la Bible. Il faut fouiller, il faut aller chercher des principes. Donc, on fait la même chose pour les fréquentations. La Bible nous enseigne beaucoup sur le mariage. À partir des instructions bibliques sur le mariage, on peut déduire un paquet de principes pour nos fréquentations. La Bible nous parle des relations hommes-femmes, nous donne des principes de sagesse. Donc, on peut construire, je crois, une très bonne théologie des fréquentations à partir des Saintes Écritures. Mais ça va être beaucoup à partir de principes de sagesse. Il va y avoir quelques lignes, là, quelques interdits comme super clairs, puis à part de ça, ça va être de la sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Ça vous va? Puis, il y a le contexte aussi. Je veux dire, presque tous les temps bibliques nous présentent des situations où, généralement, les parents étaient très impliqués dans la sélection, n'est-ce pas, du futur conjoint, pour ne pas dire beaucoup, beaucoup de mariages, tout simplement arrangés. Fait que tu n'avais peut-être pas vraiment ton mot à dire là-dessus. Et puis, tu devais aller dans ce mariage-là. Et on n'est pas en train de dire que ce serait bien d'y retourner. Je pense que c'est un privilège de notre époque de pouvoir vraiment choisir la personne avec qui on veut se marier sur la base d'affinité, de complicité qu'on ressent, tout ça. Mais en même temps, je vais vous dire ma conviction à moi, c'est que quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier les bénéfices des mariages arrangés, disons qu'il enlève beaucoup de chance de son côté pour avoir un mariage heureux. Parce qu'il y a des éléments qui sont là, qui sont présents. Les mariages arrangés sous-entendent que tes parents te connaissent des fois peut-être un petit peu mieux que toi, entre autres. Hein? Fait que je pense qu'il y a de la sagesse là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui devraient se marier contre l'avis de leurs parents. Ça arrive des fois. C'est arrivé des fois que j'ai accompagné des couples, puis la famille était, tu sais, des fois c'est à cause de la foi. Puis ils sont comme en guerre, des choses comme ça. Puis là, on écoute j'ai dû parler avec des parents. Mais généralement, ils nous connaissent pas mal, puis ils ont une bonne idée. Tu sais, fait que ça sous-entend au moins cet élément-là, si on parle de mariage arrangé, ça sous-entend quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à tirer du concept des mariages arrangés qui est quand même important dans le mariage, selon vous? En trouvez-vous un? Oui? Manon? Non? Ah, j'ai une petite main bougée. Y a-t-il quelqu'un qui a de la main? Oui. Vas-y, Flore. OK. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire que les deux familles, même des futurs conjoints, se connaissent souvent. Puis ils peuvent être là aussi pour eux s'il y a des difficultés après dans le mariage. C'est intéressant. Mais un des éléments qui est là, qui est évident, c'est que l'amour, c'est premièrement une question de décision plus qu'une question d'affinité. Si vous croyez que l'amour, c'est premièrement une question d'affinité, votre mariage va être horrible. Vous allez vraiment être malheureux. Vous allez être très, très malheureux dans le mariage. L'amour dans le mariage, c'est une question de décision avant d'être une question d'affinité. Et c'est pour ça qu'un mariage arrangé, ça peut être un mariage très heureux. Puis un mariage qui n'est pas du tout arrangé, ça peut être un mariage très malheureux. Parce que le fondement sur lequel on s'engage dans cette relation-là. Moi, personnellement, j'avais été enseigné, fait qu'on m'avait communiqué ça, je comprenais bien ça. C'était clair pour Esther, au jour du mariage, que je ne la mariais pas parce qu'on avait des affinités. J'appréciais toutes les affinités qu'on avait ensemble. Mais c'était clair pour elle que je ne la mariais pas à cause de nos affinités. j'ai trouvé le match parfait. C'est Esther se serait sauvée en courant si j'avais dit je te marie parce que j'ai trouvé le match parfait. Parce que après quelques années ensemble, tu réalises que le match a changé, toi tu as changé, les affinités sont peut-être pas les mêmes. Puis... Fait que oui, je pense qu'il y a des choses super importantes à apprendre des mariages arrangés, même si je crois que c'est un privilège. Vraiment, de ne pas être à cette époque-là puis d'avoir une grande liberté de pouvoir choisir. Vous comprenez? Si j'ai le choix, je ne retourne pas là. Mais je veux définitivement apprendre ce que ça me dit sur le fondement du mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comme me lancer des tomates? Vous avez des questions sur ce que j'ai dit là? Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Commentaire, question? Yes, Paul. Ouais.
S'il avait vu que ça n'avait pas d'allure pantoute,
ouais.
J'ai fréquenté d'autres personnes avant, puis c'était comme ben, tu sais, il veut dire.
OK, fait que leur avis est éclairant pour toi. Ouais, ouais, oui, définitivement. Quelqu'un d'autre, un commentaire, une question? C'est bon, si des fois, comme vous n'êtes pas d'accord avec moi, puis vous ne voulez pas poser des questions publiquement, envoyez-moi des courriels, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de continuer la conversation. Je l'ai fait déjà avec quelques personnes dans le cadre du cours, d'accord? Je suis tout en train de colliger ça. À la fin du cours, je vais tout publier, nos conversations publiques. Non, mais sérieusement, je fais des blagues, là. Mais on peut continuer la conversation hors cours, offline. Alors, une histoire brève des fréquentations. C'est important aussi, je pense que ça nous donne la perspective, d'accord? Très, très vite. On va juste aller à partir de 1900. De 1900 à 2015, comment est-ce que les fréquentations en Occident? Je vais partir avec l'Occident. Je suis désolé pour ceux qui viennent d'autres continents. Mes connaissances sont tellement nulles que je ne voudrais même pas faire semblant de connaître ça. Fait que vous pourrez m'enseigner là-dessus comment ça s'est passé ou comment ça a évolué, admettons, en Afrique. Mais ici, en Occident, comment est-ce que ça a évolué à travers le dernier siècle? Mais si on retourne en 1900, les fréquentations, ça se passait beaucoup sur le perron, d'accord? Avec la permission de papa, du peut-être éventuel, possible futur beau-papa, de pouvoir m'asseoir sur le perron avec la peut-être future éventuelle Madame Étier. Puis on s'assoit sur le perron sous la supervision des parents, puis on jase ensemble, puis on apprend à faire connaissance. Ça ressemblait à ça. Et il y avait toutes sortes de principes derrière ça. On veut protéger la réputation des jeunes gens, on veut s'assurer qu'ils ne tombent pas de mauvaises mains, ils ont l'espace pour se connaître. Mais ça sous-entend que tu pouvais probablement t'en aller vers le mariage sans t'être minouché beaucoup, puis sans avoir necké étendu dans l'herbe pendant 3 heures, une fois par semaine, à chaque semaine. Je m'excuse d'être un peu vulgaire, mais c'est beaucoup à ça que ça ressemble. Mais à l'époque, c'était pas, non, ça marchait pas comme ça. Il y avait comme, non, c'était pas des conditions nécessaires pour réussir un mariage. On faisait connaissance sous supervision. C'est drôle parce que nous, on a vécu ça un petit peu. Mon épouse a été élevée par sa mère et sa grand-tante. Alors, quand j'ai commencé à fréquenter Esther, je crois que tante Léontine avait, en tout cas, elle avait passé 80 ans, d'accord? Et puis, moi, j'arrivais du monde, j'avais des principes, là. Je vous mets au défi de marcher plus les fesses serrées que moi dans vos fréquentations. C'était droit comme une barre, il n'était pas question qu'on tombe d'aucune manière. Mais quand je stationnais la voiture devant la maison, la première fois, on a vu tante Léontine qui nous regardait à travers le rideau. Fait qu'on a dit, OK, on va allumer le plafonnier. Au moins, elle va voir qu'il ne se passe rien dans l'auto. Fait que nous, on avait tante Léontine qui jetait un regard sur nous pour s'assurer que je prenais soin comme il faut d'Esther. 1920, urbanisation. La population s'en va vers les villes. Ça veut dire que les gens deviennent beaucoup plus mobiles en ville. Les jeunes gens commencent à sortir ensemble à ce moment-là. Font des sorties ensemble, peuvent avoir des fréquentations qui ne sont pas comme sous le regard des parents constamment, commencent à faire des sorties au restaurant, des sorties au théâtre. 1930, l'avènement de la voiture, super bon pour les fréquentations. Ça a vraiment fait du bien à l'intimité des couples qui allaient se marier éventuellement. On a découvert toutes sortes de fonctions pour les voitures. Et puis donc, Tu as une voiture, tu es le gars en mode, tu peux sortir la fille, tu es cool, tu as de l'argent, puis tu peux l'amener faire un tour de char. Puis quand tu l'amènes faire un tour de char, bien, c'est un privilège qu'elle va peut-être devoir remercier de certaines manières lorsque vous allez être ensemble, aller écouter des films dans la petite voiture. Fait que c'est venu changer beaucoup de choses au niveau de l'intimité dans les fréquentations. À ce moment-là, la sexualité, les attouchements, tout ça, c'est devenu beaucoup plus monnaie courante dans les fréquentations. Ça prend vraiment, à partir de là, ça prenait vraiment des principes très clairs pour ne pas se retrouver là. 1960, la libération avec l'avènement de la pilule anticonceptionnelle. On l'appelle anticontraceptive, c'est ça, aujourd'hui? Ils ont changé, moi j'ai le vieux terme anticonceptionnel. Avec l'avènement de la pilule, évidemment, c'est venu changer complètement les mœurs. Après ça, en 1970, l'avortement, tout ça. Fait que là, il y a eu une démocratisation de la pornographie à travers des revues comme Playboy, qui étaient vendues librement. C'était pas quelque chose d'illégal. Et donc, il y a eu tous les bouleversements avec sur le rôle de la femme, la libération de la sexualité. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, les couples vont expérimenter tout avant de se marier, puis ils vont même expérimenter quelques partenaires avant de se marier. Puis après ça, aux États-Unis, est arrivé le « no-fault divorce ». Donc, tu peux divorcer sans que ce soit, sans qu'il y ait une faute morale pour incompatibilité, ça n'allait pas, on ne s'entend plus. Donc, à ce moment-là, il y a une nouvelle quête qui commence. La quête du bon partenaire qu'on trouvera après avoir essayé notre quatrième voiture. Je vais savoir c'est quoi le char que je veux. Après ma troisième maison, tu sais, tu ne construis pas ta première maison. Tu en achètes trois, puis après ça, tu fais ton projet de construction. Parce que tu sais c'est quoi une maison. Bon, on transpose ça dans les fréquentations. Tu en essaies trois, quatre, tu vas finir par trouver la bonne qui fit avec toi. 1990! Le web qui est venu faire du bien à tout le monde de ce côté-là. Mais évidemment, le web, ce que ça fait, c'est que ça a tout simplement amené une conception des rapports humains qui est totalement libertaire. Et ce que ça fait aujourd'hui, c'est que finalement, si tu veux résumer les rapports entre hommes et femmes, il y a un mot-clé. En fait, entre être humain, là, précisons. Il y a un seul mot-clé. C'est le mot consentement. C'est le seul mot qui est important. C'est la seule question morale qui va être défendue encore aujourd'hui. Si dans un rapport entre deux êtres humains de même sexe, de sexe opposé, vers le mariage, dans des fréquentations, de n'importe quel âge, si on peut placer entre ces deux personnes-là, dans ce qui se passe entre eux, le mot consentement, on est legit. On est en business, tout est correct. Si on ne peut pas mettre le mot consentement, là, il y a un problème moral. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis là ou je suis juste un vieux crouton sarcastique puis méchant? Je ne suis pas si pire? Okay. Mais non, mais sérieusement, est-ce que vous trouvez que j'exagère ou j'amplifie ou je mets les choses plus noires qu'elles ne le sont? Parce qu'il y a des bons côtés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de communiquer dans un couple. D'accord? Je pense que c'est là. Je pense qu'il y a des valeurs positives qui sont là aussi, où il y a plus d'emphase sur la communication. Il y a des bons côtés aussi à ce que la job du gars soit plus définie par « toi, tu fais juste ça, tu fais pas ça ». Je pense qu'il y a des belles choses là aussi, d'accord? Mais au niveau des fréquentations, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde en général, le seul mot qui est important, c'est consentement. Le reste... Est-ce que vous en voyez un autre? Est-ce que vous avez un mot ou deux que vous pensez qui serait comme... Je ne peux même pas dire le mot amour, personnellement. Je ne pense pas que c'est une condition nécessaire dans notre société. Oui? Oui, c'est ça. Ça va un petit peu ensemble. Mais oui, ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste d'être consentant. Si ça n'apporte pas de fun, on arrête ça. Oui, Claudia? Ce que ça m'apporte. C'est ça qui va avec le... Je m'en vais. Maintenant, je ne dis pas que les fréquentations dans le monde, c'est tout n'importe quoi. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont des principes. J'ai des gens que je connais qui ne sont pas chrétiens, puis ils n'ont pas fait leur fréquentation comme un chrétien le ferait à la lumière des Écritures, mais ils bâtissent un couple qui est vraiment intéressant, d'accord? Donc, ils bâtissent un couple qui est vraiment intéressant, puis il y a de nombreuses très bonnes valeurs dans leur relation. Mais quand même, ce qu'on enseigne aux enfants, je crois, essentiellement, puis Puis l'élite intellectuelle, les médias populaires s'appliquent vraiment là, de toute leur force à communiquer ce principe-là. Le mot consentement, c'est la seule chose qui est vraiment importante. Plaisir, ce que ça t'apporte. Ça va? Alors, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Comment est-ce que nous, on fait? Parce que quand tu commences à étudier l'histoire de l'Église, quand tu étudies en théologie, puis tu étudies l'histoire de l'Église, une des affaires qui est troublante au début, après ça, tu comprends que c'est même là partout dans la Bible, mais c'est à quel point l'Église n'est pas imperméable à la culture environnante. L'Église n'est pas sans être affectée positivement et négativement par la culture environnante. C'est frappant à travers l'histoire de l'Église. C'est pas toujours négatif. En fait, même on voit dans les Écritures que Dieu fonctionne à l'époque où il est, dans la culture où il est. Jésus prend, par exemple, lorsqu'il instaure l'Église, par exemple, un bon exemple, c'est le baptême. Le concept du baptême par immersion était pratiqué dans plusieurs cultures de l'époque de Jésus. C'est pas comme une invention, comme personne n'a jamais fait ça, puis Jésus invente ça, puis on fait ça, d'accord? Paul va se servir des synagogues pour répandre l'Évangile. C'est pas les chrétiens qui ont inventé les synagogues, puis les juifs ont inventé les synagogues parce qu'il y a eu des déportations, puis il fallait qu'ils puissent étudier la Bible lorsqu'ils n'étaient pas à Jérusalem. D'accord? Donc, Dieu se sert de ça après comme plan de match, puis les premières églises ressemblent à des synagogues dans leur formule. Fait que c'est pas que Dieu, tu sais, comme veut qu'on soit absolument imperméable à la culture, c'est clair que non. Mais en même temps, ça veut dire que nous, on doit user de discernement lorsqu'on est en relation avec la culture. Parce qu'autrement, on va suivre, dans le fond, là, j'ai cité Juges 21-25, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je crois que c'est ça le mot d'ordre dans la société. Pour qu'il y ait un consentement de deux personnes, il faut juste que je puisse dire, est-ce que ça te semble bon? Moi, ça me semble bon. Oui, oui, chacun faisait ce qui lui semblait bon. D'accord? Si on n'use pas de discernement dans l'Église, écoutez, ça va faire 20 ans là, que je suis pasteur, que je travaille dans l'Église. Moi, je vous le dis, là, facilement, il peut n'y avoir aucune différence entre les fréquentations d'un chrétien et les fréquentations d'un non-chrétien. Puis il peut être dans cette église-ci, puis il n'y a aucune différence. Sinon que le nom de Jésus est prononcé, puis on va à l'église le dimanche. Là. Mais je parle dans la fréquentation elle-même. Donc je pense que vraiment, il faut développer des convictions très, très claires sur les fréquentations avant de s'engager là-dedans pour pouvoir bâtir les choses comme il faut. Puis on a vraiment toutes les ressources là pour faire des super belles fréquentations, puis vivre de beaux mariages. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je pense qu'on peut appliquer ça dans le cadre des fréquentations. Alors, on va se donner une définition. Qu'est-ce que c'est les fréquentations? Puis vous allez voir, là, on va plonger dans le fond dans toutes les prochaines semaines à l'intérieur de ça, les fréquentations. Une première définition, fréquenter est une relation entre un homme et une femme, entre un homme et une femme seulement, qui prennent du temps ensemble activement et intentionnellement afin de considérer le mariage. D'accord? C'est une première définition qui exclut déjà beaucoup de choses, qui élimine beaucoup de possibilités. Donc, une fréquentation chrétienne, c'est fréquenter une personne, c'est une relation, je m'excuse, entre un homme et une femme qui prennent du temps ensemble activement, ça veut dire régulièrement, et intentionnellement, dans un but premier, afin de considérer le mariage. Est-ce que vous avez des questions juste là, avant qu'on développe, ou des commentaires à faire à ce point-ci, sur cette définition-là des fréquentations? Est-ce que vous avez l'impression que ça couvre à peu près comme tout, qu'on a une bonne définition de base pour les fréquentations? Oui, Paul? Oui. Oui.
Des fois, surtout les femmes de savoir, est-ce qu'il s'agit juste d'une amitié ou il s'agit plus que ça, tu sais?
Oui.
Puis, où est-ce qu'il y a le point de bascule entre suis juste ami ou on se fréquente, tu sais? Moi, je pense que, en tout cas, moi, un des éléments, sûrement tu vas y revenir, c'est la clarté.
Oui. La clarté, tu sais? Dans la relation.
Dans la
Ouais.
relation. Des fois, tu peux avoir une relation amicale avec une sœur, mettons, pour un an. Puis, à un moment donné, ben, tu commences à ressentir plus que juste une amitié, tu sais, côté physique, côté attirance,
ouais.
toutes sortes d'autres éléments. Puis, peut-être Dieu qui te met à cœur aussi cette personne-là. Oh, je la verrais bien, je me
ouais.
verrais bien avec elle,
ouais.
faire un ministère, faire ma vie, tu sais, avoir des enfants partout. Ça dépend quoi, là, où tu es rendu. Mais le point de bascule, à savoir, est-ce que là, on rentre dans un autre shift? Si on rentre dans un autre shift, ça veut dire quoi? C'est ça, souvent, c'est une chose ça, qui est...
Oui. OK, fait qu'il y a une grande question, c'est à quel moment on passe de l'amitié à des fréquentations, puis comment on protège ça, puis ben je pense que c'est la clarté comme tu as dit, c'est exactement ça parce qu'il y a beaucoup de beaux mariages. Pardon, il y a beaucoup de beaux mariages qui commencent avec une amitié. Puis parce que les gens se découvrent, puis c'est une amitié, on est à jeunesse, à un moment donné, ça clique, on est comme un petit peu des fois dans les conversations, on se retrouve plutôt à être engagé ensemble dans la conversation, là on dit OK, on irait voir un film ensemble, on commence à jaser. Mais oui, je dois protéger le cœur de l'autre, puis protéger mon cœur en gardant la relation claire, très, très claire. Puis si à un moment donné, vraiment dans mon cœur, je veux considérer ça, il faut que je le mette clairement sur la table aussi. Puis ça demande, je pense, beaucoup de communication. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des principes sur les fréquentations, parce que si moi je suis, si quelqu'un sait c'est quoi mes principes sur les fréquentations, elle va savoir quand elle va se fréquenter. Elle va le savoir super clairement. Parce qu'on va voir, on va passer à une autre étape là, très, très claire. Mais s'il n'y a rien de clair de ce côté-là, bien, on va jouer dans une amitié qui va devenir super intime, puis il y a quelqu'un qui va se faire mal. En même temps, si je pense que je suis appelé à me marier, puis que je veux vivre à mon époque, ça veut dire que je veux avoir le droit de choisir moi-même la personne que je vais marier, bien, c'est un peu inévitable qu'il y ait 2-3 mini-peines d'amour, là. Tu sais, dans le sens que je vois un crush sur une fille qui va arriver, puis je la regarde aller, puis je dis « aïe, ce serait génial », puis je commence à... Tu sais, hop, on semble avoir des affinités en plus, puis ah, finalement, non, elle n'a vraiment pas d'intérêt, tu sais. Ça s'est fait en toute pureté, mais je veux dire, pas avoir des déceptions, d'accord? Ça, je pense que ça fait partie de la game. Ou sinon, on retourne en arrière, vous envoyez toutes vos candidatures aux anciens, les anciens, on se penche là-dessus, on parle avec vos parents, puis on vous arrange ça, d'accord? Mais il y a certaines personnes dans l'Église qui savent que s'ils commencent à fréquenter, je veux qu'ils viennent dans mon bureau. Parce que je vais prendre soin d'eux. OK. Donc, une définition, fréquenter est une relation entre un homme et une femme qui prennent du temps ensemble, activement et intentionnellement, afin de considérer le mariage. Il s'agit donc d'une relation qui a un but bien précis, celui de déterminer si Dieu conduit ces deux personnes à se marier. Puis, oui, excuse-moi, Jason. Ouais.
Puis quand on tombe, on dirait qu'il y a comme une espèce de gap ou de fossé entre hein? Ah, ben tu peux pas fréquenter, tu peux pas être avec une femme, juste dire on va aller prendre un café, parler de sa foi, échanger des choses.
Oui. Mais je t'encourage à aller écouter la leçon. J'ai consacré une leçon à ça, là, les amitiés gars-filles. Je n'ai pas donné toutes les réponses, je vous avoue, dans la leçon. Dans le sens, après, je me dis, ah, j'aurais aimé ça donner 3-4 principes de sagesse qui auraient donné encore un petit peu plus de chair sur l'os là, pour bien faire ça. Mais va écouter ça. J'ai eu une discussion avec deux personnes là, dernièrement encore là-dessus. Puis on était d'accord pour être d'accord. Qu'il y a quand même une place pour ça, où on a des relations avec frères et sœurs dans l'Église, puis il faut pas que mon rapport avec toutes les filles dans l'Église, ce soit soit un rapport de séduction, soit un rapport de fuite. Ça ne ressemble pas du tout aux Écritures, cette affaire-là. Ça ressemble pas au rapport que Jésus avait avec les femmes, qui était un homme, puis lui qui avait une réputation à protéger. Fait qu'il y a une maturité qu'il faut chercher là. Fait qu'allez écouter la leçon, parce que si je repars, je vous avoue, je repars pour 10 minutes facilement, là. Mais c'est un bon point. C'est un bon point, puis ça revient à la clarté, ça revient au dialogue. Parce qu'il y a ce qui est sage selon les Écritures, puis il y a ce qui est sage personnellement. D'accord? Fait que Jésus apporte un principe. Jésus dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe ta main. Il n'est pas en train de dire coupe ta main, mais il est en train de dire, sois intelligent, regarde qui tu es, puis il y a des choses que Yannick ne fait pas, puis que Yannick ne fera peut-être jamais de sa vie. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis je disais, moi, personnellement, les vacances dans le sud, c'est à la plage, ça ne marche pas vraiment. Ça me tente pas de passer la journée, pas de lunettes, puis c'est de valeur, mais ils sont trop belles pour moi, ces filles-là. Fait que ça m'a pris du temps. Là. Quand je me suis converti, pour moi, un couple chrétien qui allait prendre des vacances, là, sentez-vous pas jugé, je vous dis, j'ai grandi un petit peu, là. Mais mon frère, c'est le premier, on s'en va à Cuba. Ta femme est aveugle, man, come on. Tu te payes ma tête. Tu vas être toute la journée, c'est à la plage à Cuba, ta femme est aveugle, puis il y a des filles, des fois, pratiquement tout nues, qui passent devant toi. Tu te payes ma tête. T'sais. Fait qu'on a eu des grosses discussions au début parce que moi, c'était. C'est sûr, man, tu pêches, ça se peut pas. Fait que. Non, je peux prendre un engagement, je peux veiller sur mon cœur, tout ça, tu sais. Fait que. Mais pour moi, c'est un cas, tu sais. Coupe ta main. Dans mon cas, moi, c'est clair, c'est ça. Peut-être qu'un jour, ce sera pas ça. Je vais des fois à la plage, mais je le fais autrement, puis je le fais. J'enlève mes lunettes parce que ça, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon. Fait que. Ma femme, elle sait tout ça, faites-vous-en pas. Donc, il y a la sagesse dans les relations. On a des principes de sagesse dans les Écritures. Après ça, il y a la sagesse personnelle. Je dois après ça le contextualiser pour moi. C'est pour ça que le dialogue est toujours important, parce que ce qui ne pourrait pas être une occasion de chute pour Paul, le serait peut-être pour Mariana. Puis si je me tiens avec Mariana, bien, peut-être qu'on va faire les choses autrement. C'est en jasant qu'on va déterminer ces choses-là. D'accord? Fait que je ne peux pas arriver et dire « la liberté chrétienne ». Non, c'est l'amour, la liberté. Donc, l'amour demande d'être en dialogue avec l'autre pour comprendre, bien, il a vécu des choses, puis il n'est pas à l'aise, ou elle n'est pas à l'aise, puis même si c'est pas mal, dans son cas, ça serait un manque de prévenance. Puis ça, c'est un principe qui est super clair dans l'Épître aux Romains, entre autres. Les fréquentations peuvent conduire, je reviens aux fréquentations, les fréquentations peuvent conduire au mariage ou non. Donc, le succès d'une fréquentation, ce n'est pas nécessairement le mariage. Clairement, je crois, clairement, une fréquentation où il va y avoir l'expression d'une romance, d'affection, des choses comme ça, ça doit absolument être en vue du mariage. Je n'ai pas de catégorie biblique pour flirter puis commencer à exprimer de l'amour affectif romantique avec des femmes dans l'Église. Qui ne vise pas le mariage. Je n'ai aucune catégorie biblique pour faire ça. Si toi, tu as le droit de le faire parce que tu es célibataire, moi, j'ai le droit de le faire comme marié. Parce que si c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de saint pour moi aussi. Donc, des fréquentations, c'est quelque chose en vue du mariage. Et une fréquentation où on commence à exprimer un amour romantique, puis même des fois, même tu sais, à avoir des gestes physiques qui vont l'exprimer, cette affaire-là, si tu n'es pas en train de viser le mariage, puis ce n'est pas clairement pour ça, pas qu'est-ce que vous faites ensemble. Là. Je veux dire, moi, vous ne m'avez pas vu me promener dans l'église main dans la main avec d'autres femmes que ma femme. Puis pourtant, c'est toutes mes sœurs. De toutes mes sœurs. Mais je ne fais pas ça, cette affaire-là. Ah non, mais toi, tu es marié. OK, fait que toi, tu as le droit d'avoir une aventure romantique, même si on ne va pas, là, tu sais, il n'y a pas de sexualité, tout ça. Avec 6 femmes dans l'église, tu vas toutes les inviter à souper après avec leur mari, puis ça va être drôle. Hein? Bien, ça, c'est ma vie dans le monde. Vous comprenez? Moi, c'est ma vie dans le monde. C'est enracé qu'on croise des fois des gens, puis elle se dit, il me semble qu'il m'a déjà dit ce nom-là dans son passé. Puis il me semble que c'était pas cool ce qu'il m'avait dit. Parce que je pense que c'est la fille avec qui il a sorti pendant 2 ans, puis il était sûr que c'était la femme de sa vie. Vous comprenez? Mais ça, c'est ma vie comme païen. C'est pas ma vie comme chrétien. Je peux pas revenir en arrière sur ma vie comme païen. Jésus ne dirigeait pas ma vie. Mais je pense pas que les fréquentations doivent aller dans une romance, puis une affection, puis tout le kit, ça ne vise pas le mariage. Est-ce que ça veut dire que dès qu'il y a 102 personnes, le seul issue possible, c'est le mariage? Non. Parce que tu es marié quand tu es marié. Tu n'es pas marié avant que tu sois marié. Fait que ça m'est arrivé régulièrement dans les cours de préparation au mariage, de dire aux mariés, 2 semaines avant le mariage, 3 semaines avant le mariage, vous n'êtes pas marié encore, hein? C'est encore le temps de vous sauver. Là. Puis c'était une crise de panique. Une semaine avant, tu m'appelles, on va aller prier ensemble, on va jaser. Puis j'en ai fait des rencontres comme ça. Là. comprenez? Parce qu'ils ne sont pas mariés. Parce que moi, après, la volonté de Dieu, je la connais bullseye, là. Viens pas me voir après pour me dire que ce n'était pas la volonté de Dieu que vous vous mariez ensemble, là. Quand vous avez signé le contrat de mariage, puis vous avez prononcé vos vœux devant les témoins, là, moi, je la connais, la volonté de Dieu, est super claire, c'est que vous soyez ensemble. Donc, les fréquentations, le succès des fréquentations, pour moi, ce n'est pas toujours le mariage. Parce que ça se peut que dans le processus, on dise, non, il y a de quoi qui ne va pas, puis on pense que ça ne vient pas de Dieu. Ça se peut que dans la relation, je découvre des choses sur moi-même, puis je dis à l'autre, écoute, vraiment, c'est pas le temps que je fréquente. Ça n'a pas de bon sens. On apprend à se connaître, puis il y a tellement d'affaires qui sortent en moi que je n'arrive pas à comprendre, puis comment je réagis, puis qu'est-ce qui se passe, que c'est juste pas le temps du tout pour moi. Puis si toi, tu crois que c'est là le mariage, ben je peux pas, tu sais. Puis je me retire de cette fréquentation-là, tout simplement. Puis je continue à grandir avec le Seigneur. Puis ça veut dire que cette personne-là va comprendre qu'elle devait se marier avec quelqu'un d'autre, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez sur ça ou il y a des choses que je dis qui est comme ça ne marche pas dans ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui?
Je ne sais pas, parce que peut-être faut faire la distinction aussi entre fréquentation et fiançailles. Fiançailles, c'est une décision qui a été prise.
Oui, OK, c'est un bon point. Fait que j'aimerais savoir votre opinion. On va faire un débat ensemble. Fait que Paul il dit il y a une différence entre fréquentation et fiançailles. Lorsqu'il y a des fiançailles, il y a une décision qui a été prise. C'est quelqu'un qui veut commenter ça. Oui, Josiane. Oui. OK. Fait que Josiane dit, t'es pas mariée avant d'être mariée, même si t'es fiancée. Ça se peut que tu te sentes coincé, mais il faut que tu aies le droit de revenir en arrière. Antoine? OK, donc Antoine dit, déjà les fréquentations, il y a une décision. Les fiançailles, ça en serait une de plus. Puis le mariage, c'est la décision. Je vais m'arrêter ici, Jason, je m'excuse, mais il faut que je termine dans quelques minutes. Fait que je pense qu'on est tous d'accord, là, Paul. Tu es marié quand tu es marié, d'accord? Si tu fréquentes, puis tu n'as pas déjà une certaine décision qui est prise, man, ne fréquente pas, tu vas juste faire mal à tout le monde, d'accord? Quand moi, j'ai commencé à fréquenter Esther, j'ai dit à Esther, dans les deux semaines qui ont suivi, j'ai dit, dans mon esprit à moi, là, à moins que Dieu nous montre qu'on est d'impatate, d'ici un an et demi, on est mariés. Je veux juste que tu saches que je ne suis pas ici pour jouer avec ton cœur. Puis, je ne pense pas que je vais découvrir d'autres choses sur toi dans nos fréquentations. Parce que je t'ai observé avec la jeunesse, on travaillait ensemble, tout ça, je l'ai entendu prier. Je faisais exprès pour aller la reconduire, elle puis sa sœur, puis bon. Fait que, tu sais, je connaissais 99 % de tout ce que j'avais à connaître sur elle avant même de la fréquenter. Fait que j'ai dit, moi, je ne suis pas ici pour jouer avec toi. À moins que Dieu nous surprenne, je pense qu'on va se marier ensemble, puis mais tu n'es pas lié tant qu'on n'est pas marié. Puis effectivement, lorsque je me rends aux fiançailles, ben je suis en train de dire, mes fréquentations sont concluantes. Là, on va juste comme se préparer jusqu'aux noces. Ça ne veut pas dire qu'entre les fiançailles et le mariage, il n'y a pas quelque chose qui va sortir, puis tu vas dire « ouch, non, je suis désolé, ça ne marche pas ». Parce qu'il y a le phénomène où tant que tu n'es pas marié, tu es en train de flirter. C'est vrai pour les gars. Les gars, on est des pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui quittent leur mariage ou qui négligent leur mariage? C'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de conquête à faire. Ils n'ont pas compris que cette femme-là... Un homme peut venir leur voler n'importe quand dans leur vie. Fait qu'ils ne sont plus en mode conquête. Là, je suis désolé, là, je ne suis pas dans les Écritures, je vais juste dans ma petite pop psychologie personnelle. Là. Mais je crois que c'est vrai pour la majorité des hommes. D'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que jusqu'au noces, tu es en mode conquête. Fait que même si tu dis non, on se fréquente, je suis plus comme ça. Ouais, ouais, c'est correct. Attends un an après d'être marié, tu vas péter plus souvent devant elle. Je suis désolé d'être vulgaire, mais elle est conquise. T'sais, elle est conquise. Fait que ça fait que tu peux manquer quand même d'objectivité. Puis tu peux réaliser 3 semaines avant le mariage que tu étais dans une bulle, puis que tu étais coco, puis que tu n'avais pas été honnête avec toi-même, puis que dans le fond, tu freak, puis il faut que tu sortes de là. Puis il faut que tu aies le droit de le faire. Maintenant, on n'est pas là pour briser des cœurs, vous comprenez? Il y a des gens qui ne se remettent jamais de fiançailles rompues. Il y a des gens qui restent seuls toute leur vie à cause d'un mariage annulé. Fait que je ne suis pas en train de dire que c'est rien, puis il n'y a pas de trouble, puis on fait ça. Je suis juste en train de dire, prenons des catégories qui sont claires dans les Écritures. Prenons des choses claires dans les Écritures. Tu n'es pas marié quand tu commences à sortir avec une fille, puis qu'à un moment donné, vous regardez dans le blanc des yeux, puis vous dites, on s'aime, on va se marier. Donc, on peut coucher ensemble, on est marié devant le Seigneur. Oh oui, je suis sûr que si tu annules ça, tu ne voudras pas que je considère ça comme un divorce comme pasteur. Je suis certain de ça. Ta théologie, elle va s'enligner droite, ce ne sera pas long. D'accord? Tu n'es pas marié tant que tu n'es pas marié. Oui, Caro. Je vais vous donner un exemple. N'importe quoi. Je vais faire de la psycho un peu. Ça existe, des souvenirs refoulés. Okay? On est dans les fréquentations, puis à un moment donné, on est fiancés, puis on est à 3 semaines du mariage, puis il y a un geste d'intimité qui est de plus, qu'on n'a pas vécu. Puis je ne parle pas là, de sexualité, mais juste quelque chose d'un peu plus intime qui se passe. Bam, tu as quelque chose qui revient. Puis c'est clair que c'était pas cool, là. Agression sexuelle quand tu étais super jeune, puis pouf, ça revient tout là. Puis là, toi, tu dis, je suis désolé, mais moi, je me marie pas dans 3 semaines. Il faut que j'aille régler ça, cette affaire-là. Ça veut pas dire qu'ils se marieront pas ensemble. Tu comprends? Mais oui, il faut que cette affaire-là soit mise sur la table, puis il faut que ma fiancée ait le droit de le mettre sur la table. Parce que de toute façon, si elle ne le met pas sur la table, quand après ça, on va se marier, ça se peut que ce soit long en titi avant qu'il se passe quelque chose dans la chambre à coucher. Fait que même par intégrité, il faudrait que ça puisse être mis sur la table. Puis, ça se peut que le couple décide à ce moment-là de dire, regarde, on va faire le pas de foi ensemble, puis moi, je vais être l'homme le plus patient du monde. Je suis prêt à être unique pour toi. Fait que ça serait correct aussi. Fait que oui, je pense qu'il y a certaines possibilités, d'accord, qui devraient faire ça. Je vais donner des scénarios catastrophes, là. Mon père décède à ce moment-là, puis j'avais une relation avec lui tellement proche que c'est comme... associer ça là, dans notre expérience humaine, le mariage, tout ça, non, je ne suis pas capable de vivre ça. Il faut que j'aie de l'espace pour dire non. T'sais, fait que je donne des scénarios catastrophes, mais je pense qu'il y en a quelques-unes. Puis je pense que si on ne dit pas que c'est possible de le faire, il y a des gens qui n'oseront pas même le mettre sur la table. Fait que moi, comme conseiller, lorsque j'accompagne des gens, je tiens à le dire, ça. Maintenant, vous allez le voir tout au long du cours. Pour moi, les fréquentations, c'est quelque chose de sérieux. Puis je ne suis pas là pour jouer avec des cœurs. Fait que, on va terminer avec un mot de prière. C'est bon? De poser une petite introduction sur les fréquentations. Puis on développe tranquillement la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, merci pour l'amour. Merci pour l'amour entre frères et sœurs qu'on vit dans l'Église. Merci pour l'amour que tu as pour nous. On veut apprendre, Seigneur, à bâtir des mariages, premièrement, de cet amour que tu as pour nous, de celui qu'on a pour toi, de l'amour qu'on a pour les frères et sœurs en général, pour notre prochain, Seigneur. C'est un fondement premier même pour le mariage, Seigneur. Cet amour-là, il y a tellement à prendre là. On veut faire de bonnes fréquentations, Seigneur, qui vont t'honorer, te glorifier, qui vont mettre aussi toutes les chances de notre côté pour avoir des mariages solides qui te glorifient, qui t'honorent, Seigneur. Je te prie, Père, d'ouvrir nos esprits, de nous aider à réfléchir de manière ouverte avec les Écritures. Garde-moi, Seigneur, à travers tout ça, de faire plus la promotion de mes opinions que de ta parole. C'est un domaine où il faut aller chercher des principes plutôt que des règles claires. Et il y a plus de place, des fois, pour mettre de l'avant des opinions Alors garde-moi, Seigneur, de par naïveté, de profiter de ça. Mais au contraire, on veut vraiment créer notre conviction et développer des convictions saines et solides sur les fréquentations à partir de ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.